Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons du secteur aérien en Afrique. A-t-il suffisamment récupéré après le Covid-19? Nous en parlons longuement au cours de cette émission avec notre invité. Il s'appelle Mansour Diop et il est expert aérien. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Nous irons également en Côte d'Ivoire pour parler du lancement de la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibad. L'objectif est d'assurer la modernisation des villes africaines selon les standards internationaux, mais également en respectant les réalités socio-économiques locales. Nous irons entendre depuis Abidjan notre correspondant Mel Berchel. Et notre destination éco nous mène au Botswana, en Afrique australe, où l'on votait cette semaine pour la présidentielle et des législatives. L'occasion d'en savoir davantage sur cette économie. Une économie qui repose essentiellement sur l'exploitation de ses ressources minières. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur la visite d'État au Maroc du président français Emmanuel Macron. Lors des échanges avec le secteur privé marocain, il a été beaucoup question de co-investissement sur les marchés africains. Je vous propose d'écouter les extraits des interventions du président du patronat marocain Chakib Alge, puis de Mohamed El Khetani, co-président du club des entreprises franco-marocaines.
Maintenant, ce qui est aussi important, c'est voir aussi l'Afrique. L'Afrique où la vision de notre souverain nous a permis d'être présents. Nos banques sont présentes dans 26 pays africains. Je pense que nous pouvons ensemble envisager de co-investir ensemble en Afrique et aussi travailler dans un esprit gagnant-gagnant avec nos partenaires africains.
Et il y a une convergence dans les visions stratégiques et sur les thématiques du présent et de l'avenir. Tout ce qui touche au changement climatique, tout ce qui touche à la transition énergétique et tout ce qui touche à l'innovation et la jeunesse, avec une projection extrêmement intéressante vers le continent africain à la veille de la constitution de la zone de libre-échange continentale, qui présente aujourd'hui pas moins de 1,5 milliard de citoyens africains, et demain, à horizon de 20 ans, plus de 2 milliards de citoyens africains. Donc c'est autant de potentiel et de perspectives pour les secteurs que nous avons ciblés dans le cadre des travaux du Club des chefs d'entreprise.
Direction la Côte d'Ivoire pour parler du lancement de la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibad. Celui-ci se tiendra en avril 2025, mais on commence déjà à se préparer. L'objectif est d'assurer la modernisation des villes africaines selon les standards internationaux, mais également selon les réalités socio-économiques locales. Suivons ce reportage depuis Abidjan de notre correspondant Mel Berchel.
Effondrement d'immeubles, inondations, déguerpissement des populations, démolition des quartiers précaires. Ces réalités, qui impactent la vie quotidienne des nombreux habitants du district d'Abidjan, soulignent l'urgence d'une architecture et d'un urbanisme repensé. Face à ces défis majeurs, l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, OACI, s'engage à transformer durablement les infrastructures urbaines pour garantir un habitat sécurisé et résilient. C'est dans ce cadre que se tiendra la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibad 2025, officiellement lancé à Abidjan, qui, selon le commissaire général, marque le début d'une nouvelle ère. Ismaël Boga Nguetsa, commissaire général Archibald.
Il nous faudra mettre en place une stratégie marketing hardie permettant aux acteurs du marché de pouvoir se rencontrer en B2B, en cocktail networking, en journée pays, en journée professionnelle, en invité stratégique provenant de la sous-région, voire au-delà. Cette stratégie, bien entendu, est une opportunité pour les acteurs locaux de nouer des partenariats avec des représentants aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, profitant ainsi de la position de hub sous-régional que représente notre pays.
Archibald, depuis une décennie, réunit les acteurs du secteur pour penser et construire un avenir urbain durable. La 10e édition, lancée sous le thème « Architecture et renouvellement urbain », avec un accent particulier sur la transformation des villes ivoiriennes. Joseph Hamon, directeur général de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.
Celui d'amener la population à voir quel est le rôle des architectes, le rôle des urbanistes, le rôle de tous ceux qui concourent à la transformation de nos villes dans le cadre de ce renouvellement urbain. Donc la prise en charge, c'est sur ces bases que nous allons réfléchir, échanger avec les expériences ivoiriennes, mais également les expériences à travers le monde. Et nous pensons qu'il y a matière à partager ces différentes expériences pour le devenir de nos différentes cités.
Archibart 2025 s'annonce donc comme une plateforme de solutions qui, au-delà de la construction, ambitionne de réinventer l'urbanisme ivoirien pour en faire un modèle de durabilité et de sécurité. À Abidjan, Mel Berchel pour Medi1.
Merci à vous, Mel Berchel, correspondant de Medi1 à Abidjan.
Coémergence, l'invité.
Et nous avons le plaisir de retrouver Mansour Diop, il est expert aérien. Avec lui, nous parlons du secteur aérien, donc en Afrique, les transports aériens. Surtout de voir si ce secteur a-t-il vraiment récupéré du Covid. Bonjour à vous, Mansour Diop, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je participe à votre émission.
Alors, tout d'abord, comment se porte actuellement le secteur du transport aérien en Afrique?
Alors, je dirais pas trop bien, parce qu'il y a eu cette parenthèse Covid, il est vrai, qui a absolument laissé des séquelles, puisque pendant 2-3 ans, c'était un peu la léthargie. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les compagnies essayent de mieux aller et il n'y a qu'à prendre quelques exemples, comme par exemple Air Sénégal, qui a dû récemment essayer de reprendre du poil de la bête en éliminant toutes les lignes qui étaient déficitaires pour essayer de se concentrer sur un réseau un peu plus porteur. C'est un peu le cas aussi pour toutes les compagnies de la région ouest africaine. Il n'y en a pas beaucoup, puisque à part Air Sénégal, vous avez Air Côte d'Ivoire, qui fait de son mieux actuellement. Là, en Afrique centrale, c'est le désert, il faut le dire, malheureusement. Et en Afrique de l'Est, oui, Kenya Airways s'en sort relativement bien. Mmh. Et Ethiopian Airlines, le champion national connu, évidemment, se porte à merveille. Nous parlerons certainement un peu plus tard de ce qui se passera dans l'avenir immédiat. Mmh. Mais du côté du Maghreb également, que ce soit Royal Air Maroc ou Air Algérie et un peu plus loin, Égyptair, ce sont les compagnies qui se maintiennent.
Mmh. Alors, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que ce secteur s'est-il vraiment remis du choc du Covid-19?
Alors, remis, je dirais, au plan des chiffres, au plan du trafic, oui, les compagnies ont retrouvé globalement le niveau de ce que le trafic était avant le Covid, c'est-à-dire l'année de référence 2019. Mmh. Ça a été fait pour les dernières compagnies en 2023. Mais le problème que nous avons en Afrique, d'une manière globale, c'est que les taxes sont très élevées, le carburant, c'est le plus cher du monde, et vous prenez un billet d'avion, les 40%, c'est pratiquement des taxes gouvernementales et autres. Donc, il y a quand même des difficultés structurelles qui étaient déjà là avant le Covid. Mmh. Et cette parenthèse Covid est venue exacerber les choses. Mmh. Et les compagnies ont les plus grandes difficultés à s'en sortir, même si le trafic a augmenté, même si le taux de remplissage s'améliore. Je parle dans le cas où il y a un réseau qui est le réseau adéquat, pas mmh. des lignes de prestige envoyées un peu partout. Mmh. En tout cas, en termes, même quand la compagnie est gérée correctement, structurellement, il y a des difficultés qui étaient déjà là avant le Covid. Mmh. Alors, le Covid est venu
aggraver la situation.
Exactement. Voilà.
Donc le Covid a aggravé la situation. Alors, cela dit, quelles sont les perspectives qui se dégagent malgré tout?
Alors, il y a quand même des perspectives, parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, la Air Côte d'Ivoire va recevoir ces deux Airbus A300 Neo pour aller desservir du long courrier comme Paris, par exemple. Et côté Air Sénégal, il y a eu ces vols qui ont été supprimés vers différentes destinations comme New York, Barcelone, Milan, etc. C'est pour se reconcentrer sur l'essentiel, ce qui peut faire penser qu'il y aura une meilleure qualité de service mm-hmm. pour la clientèle, pour des vols long courrier, comme également pour les vols qui sont à l'intérieur de l'Afrique. Mm-hmm. Nous avons également de l'autre côté Askai, par exemple, qui également s'apprête, les dates ne sont pas encore connues, mais à faire du long courrier, également sortir du continent avec des gros porteurs. Pour ne donner que ces trois exemples, cela veut dire que pour 2025, en principe, on devrait avoir une certaine amélioration. Mais il faut dire que parallèlement, il y a beaucoup de négociations, notamment au niveau de l'AFRA, African Airlines Association, chaque fois qu'il y a des réunions, pour essayer d'amener les gouvernements à faire baisser ces taxes pour rendre l'accès à l'avion beaucoup plus facile, beaucoup plus
facile. Ils ont démocratisé, comme on le dit, démocratisé voilà, le transport aérien.
Mais c'est le mot, parce qu'en fait, alors, évidemment, ça c'est le côté gouvernemental, mais ce qu'il faut dire également, et ça c'est prouvé dans le transport aérien, avoir une bonne connectivité, c'est-à-dire avoir le maximum de liaisons entre les différentes villes, mettre le maximum de vol pour ne pas, par exemple, pour aller de Ouagadougou à N'Djamena, devoir remonter en France avant de redescendre, etc., des choses comme ça.
Et en tout cas, ce qui
est prouvé.
Allez-y, rapidement.
Alors, il est prouvé que s'il y a un bon maillage du réseau, le trafic va suivre, évidemment, accompagné par une tarification accessible pour laquelle nous avons parlé de ce que les gouvernements peuvent faire.
En tout cas, moins de taxes et plus de maillage donc des destinations africaines. Absolument. Certainement, nous aurons le plaisir de revenir sur ce sujet. Mansour Diop, je rappelle que vous êtes expert aérien. Vous nous parliez depuis la capitale sénégalaise, Dakar. Absolument. Bonne journée à vous, Mansour Diop.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Omar. Et
merci.
À
très bientôt.
Zoom Express.
Et nous parlons du rôle de la diaspora africaine dans la transformation des ressources agricoles du continent. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cacao. C'est avec Ibrahim Diabaté qui est basé au Canada. Bonjour à vous, Ibrahim Diabaté. Tout d'abord, présentez-nous votre entreprise et vos activités dans cette filière de transformation du cacao.
Bonjour Omar, je suis Ibrahim Diabaté, président et directeur général de l'entreprise Transformation Cacao Ivoire Québec Inc. Et merci encore une fois pour cette interview. Présenter notre entreprise. Notre entreprise est située à Montréal, précisément au Québec, c'est au Canada. Et nous sommes spécialisés dans l'importation de fèves de cacao de qualité, notamment de la Côte d'Ivoire, globalement des fèves de qualité de Madagascar, du Cameroun et aussi de l'Amérique latine et de l'Asie. Notre entreprise existe depuis 2021. Il faut dire que nous, en fait, au début, nous avons entamé par le négoce dans des fèves de cacao de matières premières. Et ensuite, nous sommes spécialisés en transformation de fèves de cacao en différents dérivés. Il faut parler de la masse de cacao, du beurre de cacao, de la poudre de cacao. Ensuite, nous avons poussé nos productions vers des transformations plus fines, donc des tablettes de chocolat, des chocolats de couverture, des tartinades avec du sucre d'érable. Ils ont fait aussi, bien sûr, du beurre de cacao qu'on vend aux industriels dans le domaine cosmétique et alimentaire pour le chocolat. Et aussi, on a des recettes de chocolat chaud qu'on fait à base des poudres de cacao produites ici à Montréal.
Alors, c'est une belle entrée en matière et avec moi également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui relie la diaspora africaine avec les investisseurs. Alors Moustapha El Bouri, parlez-nous de l'intérêt de cette filière dans les économies du continent.
Oumar, bonjour. En effet, la transformation du cacao sur l'Afrique subsaharienne reste très faible. Il faut le reconnaître aujourd'hui, on doit être aux alentours de 10% de produits transformés, ce qui est très très bas. L'une des principales raisons, c'est qu'on est, je pense, on n'est pas encore arrivé à atteindre un coût de transformation qui soit raisonnable. Je vais vous donner un exemple. Vous avez les Indiens qui achètent une grosse partie des produits du cacao brut en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également, en Cameroun, au Ghana, et ils transportent le produit brut jusqu'en Inde, ils transforment localement là-bas, ils arrivent à un produit transformé dont le coût est inférieur au coût qu'on a localement, soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun par exemple. Donc vous voyez, en fait, on a énormément, je pense, de progrès à faire à ce niveau-là. Je pense que ça doit être un manque d'expérience, un problème de gestion des usines. Donc il faut vraiment évoluer là-dessus. Et c'est pour ça que Ibrahim, ce qu'il a fait, c'est bien, commencer par transformer les produits au Canada, avoir une expérience à ce niveau-là, bien maîtriser donc toute la chaîne et en étape 2, voir comment implanter donc une unité de transformation en Côte d'Ivoire qui soit vraiment très opérationnelle.
Alors, je me tourne à nouveau vers Ibrahim Diabaté. Alors, comment évoluent ces activités de transformation? Surtout, quel est le potentiel de développement et de transformation des produits agricoles, à l'instar donc du cacao?
Alors, force est de reconnaître que il y a quand même une nouvelle génération de populations africaines qui ont une poussée, qui ont une envie d'avoir une santé plus, d'avoir un bien-être, d'avoir une bonne santé. Donc ces personnes-là se retrouvent vers des produits naturels comme le cacao, qui est un très bon antioxydant. Donc ce qui fait que c'est un secteur dans lequel les Africains devraient s'investir et puis pour pouvoir servir cette clientèle-là, cette nouvelle clientèle, cette génération-là, qui est plus soucieuse des questions de santé, des questions de développement durable, de produits biologiques, etc. Donc, c'est un secteur, effectivement, le cacao qui est en croissance d'année en année avec de nouveaux acteurs, de nouveaux consommateurs en Asie. Donc, ce qui fait que on gagnerait plus à investir dans la transformation des produits en Côte d'Ivoire ou dans les pays, j'allais dire producteurs, et même mieux dans d'autres pays hein, comme le Maroc, le Sénégal, où les consommateurs aussi sont apprécie énormément le chocolat hein, pour ses effets bénéfiques, etc.
Alors Ibrahim, qu'en est-il des partenaires et du financement dans ce domaine d'activité?
Oui, nos partenaires, il faut dire que je suis un Ivoiro-Canadien, donc installé au Canada. Donc mon premier partenaire, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Agriculture du Québec, le MAPAC, je dirais. Et je peux affaire avec des artisans chocolatiers ici au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Je fais aussi, je suis conseiller pour tout ce qui est importation de fèves de cacao ici en Amérique du Nord. Donc, je fais affaire avec des maîtres chocolatiers, je fais affaire avec des artisans, je fais affaire avec aussi des écoles qui veulent mieux apprendre du cacao et aussi des partenaires aussi en Afrique parce que, comme je disais tantôt, nous importons de la Côte d'Ivoire et de certains pays en Asie. Donc, ce qui fait que on a des partenaires en Côte d'Ivoire, on a des partenaires aux États-Unis, on a des partenaires à Madagascar, donc des partenaires aussi en Haïti. Donc, transformation cacao étant donc cette stratégie un peu partout dans le monde. Et vise aussi à l'amélioration des rémunérations des planteurs africains qui vivent sous le seuil de la pauvreté, malheureusement. Et puis nous conscientisons cette population paysanne à, en tout cas, à pouvoir créer des activités, à pouvoir bénéficier de leur dur labeur.
Merci à vous, Ibrahim Diabaté. Je rappelle que vous êtes actif dans la transformation du cacao. Et merci à vous également, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique.
Destination Éco.
Notre destination éco nous mène au Botswana, en Afrique australe, où l'on votait cette semaine pour la présidentielle et des législatives, l'occasion d'en savoir davantage sur cette économie qui repose essentiellement sur l'exploitation de ces ressources minières. Et c'est avec Idriss Lindier, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite notamment l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'actualité économique et financière africaine.
Les leviers économiques principaux du Botswana sont évidemment le diamant, l'industrie. Du diamant est le moteur de l'économie du Botswana et le diamant contribue à hauteur de 70% des recettes d'exportation et 30% du produit intérieur brut. La société Debswana, un partenariat entre le gouvernement et Debeurs, qui en réalité est une filiale du géant anglo-américain, est le principal acteur du secteur. Mais le Botswana n'est pas que resté sur les diamants. Rappelez-vous, le film Les dieux leur sont tombés sur la tête. Le Botswana a aussi développé le tourisme. Il a un robuste secteur avec une attention particulière pour le tourisme de haut de gamme et respectueux de l'environnement. Le delta, par exemple, de l'Okavango, et le parc national de Chobe attire des visiteurs internationaux et cela génère des revenus significatifs et des emplois. D'ailleurs, de nombreuses sociétés touristiques du Botswana sont cotées en bourse. Enfin, le Botswana comporte des services financiers et technologiques. Le pays a su tirer profit de sa richesse diamantifère. Ben pour se diversifier vers les services financiers et les technologies numériques. Gaborone, la capitale du pays, est devenue un centre régional pour les services financiers et les investissements.
Alors, Idriss Lindier, qu'en est-il des opportunités d'investissement dans cette économie d'Afrique australe qu'est le Botswana?
Après la crise de COVID-19 qui a affecté la demande mondiale de diamants, et par conséquent l'économie du Botswana, le pays a connu une reprise économique notable en 2022. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des richesses créées par un pays du Botswana, a enregistré une croissance de plus de 6%, principalement soutenue par les exportations de diamants et une relance dans le secteur des services. L'inflation, qui est le rythme d'augmentation des prix dans un pays, est restée assez faible, hein, c'est-à-dire que les prix n'augmentent pas au Botswana de manière assez vigoureuse. Bon, récemment, elle a augmenté sous l'effet des hausses mondiales, des prix de l'énergie, Mais toutefois, l'inflation s'est stabilisée autour de 5%. Hein. C'est une performance bien plus solide que la moyenne africaine, en fait, d'Afrique subsaharienne. Et puis, le Botswana a également intensifié les investissements dans les infrastructures, notamment en matière de routes, en matière d'énergie, en matière de télécommunications. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent y aller d'y aller déjà et l'opportunité se présente d'y investir.
Merci à vous, Idriss Lindje. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite notamment donc l'agence panafricaine Ecofin spécialisée dans l'information économique et financière. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.